Donc en novembre 1999, il y a tout juste 10 ans, se tenait ici même à Toulouse une assemblée plénière de l'Association internationale des travailleurs, avec parmi les délégations anarcho-syndicalistes venues du monde entier, des militants anarchistes des Balkans et plus précisément aussi de Serbie. Nous les connaissions déjà depuis quelque temps. La solidarité internationale commence déjà à s'organiser activement. Certains d'entre nous avaient déjà pu les rencontrer. Nous mesurions alors à leur contact combien la situation était désastreuse pour la population des Balkans. En effet, à l'aube du XXIe siècle, la République fédérale de Yougoslavie, telle qu'elle a été proclamée en avril 1992, née de l'éclatement de l'ancienne République socialiste fédérale de Yougoslavie, ne compte plus que deux républiques, la Serbie, le Kosovo compris, et le Monténégro. Après l'effondrement du régime communiste hérité de Tito, au début des années 90, Milosevic a été propulsé à la tête du pouvoir par une vague puissante et populaire de nationalisme serbe. Parallèlement, dans les autres républiques de l'ex-Yougoslavie, sont apparus des leaders nationalistes. Grâce au soutien massif des pays occidentaux aux différents protagonistes, la guerre a embrasé la Yougoslavie. C'était l'époque de l'épuration ethnique et des bombardements démocratiques. Alors, de terribles sanctions économiques ont été imposées au pays, en fait, à sa population. On peut dire, pour être concis, que le résultat de la guerre a été un appauvrissement massif de la population, une suppression totale des droits de l'homme de base, pas de liberté de parole, par exemple. Et à Milosevic, alors, toujours au pouvoir. Les bombardements n'ont pas affecté sa clique. Ils ont par contre touché de plein fouet la population. Les lieux de travail ont été détruits, les hôpitaux et les écoles ont été bombardés, et le nationalisme, qui était en train de diminuer, a explosé pour atteindre des niveaux records. En France, les opinions se rangeaient majoritairement en deux camps opposés sur la forme, mais qui se retrouvaient en fin de compte sur le fond. Les uns au nom d'un anti-impérialisme mal compris, c'est-à-dire confondu avec le souverainisme d'État, soutenaient sans ménagement le régime sanguinaire de Milosevic, sans considération pour la répression et la domination de la population qui vivait en Serbie et ailleurs. Les autres, au nom d'un démocratisme mal compris lui aussi, c'est-à-dire confondu avec le libéralisme économique, soutenaient sans ménagement les bombardements de l'OTAN, sans considération pour la population qui crevait sous les bombes. Alors pour nous, ces deux positions étaient identiques. Elles étaient des encouragements à la boucherie fratricide, certes pour des motifs qui se voulaient différents, mais qui en fait étaient les mêmes, c'est-à-dire protéger les intérêts d'un clan contre un autre et sa domination sur la vaste majorité qui ne demande qu'à vivre dignement. C'est alors que des amis croates nous ont mis en contact avec un groupe de jeunes de Belgrade qui, sous les bombes de l'Occident démocratique et contre la police de la dictature nationaliste, essayaient de faire entendre une autre voix, celle de la vie contre la mort. Nous avions fait la connaissance de ces amis croates quelques années auparavant, pendant la guerre civile qui avait déchiré l'ex-Yougoslavie. Dans les hurlements nationalistes de l'époque, malgré les bourrages de crâne, ils avaient maintenu des liens avec leurs amis de Slovénie, de Bosnie et de Serbie. Mobilisés dans l'armée croate, ils y avaient développé une propagande active anti-guerre et défaitiste. Et certains avaient même déserté pour ne pas participer au carnage. Bien sûr, à l'époque, le gouvernement croate les accusait déjà de terrorisme international puisqu'ils refusaient d'aller tuer leurs frères de Serbie. C'est donc dans une région où les nationalismes sont exacerbés qu'un groupe libertaire de Belgrade développe une infatigable activité qui ignore les frontières. Déjà, ils eurent à connaître les geôles de la police serbe. Déjà, ils étaient accusés de tous les maux au motif qu'ils brisaient l'unité nationale et qu'ils refusaient de marcher au pas. La répression ne les a pas ménagés, mais jamais ils n'ont plié. Pendant les conflits bosniaques et croates, ils allèrent même jusqu'à distribuer des tracts aux frontières. Finalement, c'est le 5 octobre 2000. C'est un soulèvement populaire qui chassa Milosevic du pouvoir. Les compagnons de Belgrade, qui entre-temps avaient fondé un groupe anarcho-syndicaliste, participèrent activement à ce mouvement qui fut déclenché par la confusion à l'annonce des résultats électoraux des présidentielles quelques jours plus tôt. Deux candidats avaient des chances de l'emporter, Milosevic et Kostunica, deux candidats de l'opposition. Politiquement, c'est un nationaliste conservateur, économiquement un néolibéral. Les anarchistes serbes se sont retrouvés face à un choix difficile. Devaient-ils voter ou pas ? Voter était contre leurs convictions, même s'il est clair qu'ils auraient plus d'espace pour pouvoir militer sous Kostunica plutôt que sous Milosevic. Et c'est pour ça qu'ils s'attachèrent surtout donc à pratiquer les idées forces de l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire d'œuvrer à la construction de solidarité active et d'appuyer les initiatives renforçant l'autonomie populaire, plutôt que d'abdiquer par avance face à la confiscation programmée de tout renversement du pouvoir en allant voter pour un autre. Alors il faut reconnaître là, ici, la force morale que nos compagnons ont su garder, puis propager dans un moment si crucial. Toujours est-il que la nuit suivant les élections a été pleine de rumeurs et de nouvelles contradictoires. Il devenait évident pour tout le monde que Milosevic avait perdu les élections et qu'il essayait par tous les moyens de conserver le pouvoir. Les mineurs de la principale mine de charbon se sont alors mis en grève illimitée. Et l'opposition a alors avancé l'idée de propager la grève générale comme moyen de lutter contre Milosevic, idée qui est immédiatement reprise par la majorité de la population. Le groupe libertaire de Belgrade, bien que encore modeste, y a largement participé. Dès le début, ils ont décidé de soutenir la grève générale, même si elle était plus ou moins organisée par des partis politiques. Le contexte laissait largement la place à l'action autonome des travailleurs. Alors évidemment, en tant qu'anarchistes, nos compagnons pensent que les partis politiques ne peuvent rien apporter de bon à la population. De plus, ils leur sont opposés car ils sont tous, sans exception, sur des positions nationalistes serbes et néolibérales. Mais pour eux, chasser Milosevic du pouvoir était une opportunité palpable et ils pensaient, à juste titre, que cela ne pouvait que bénéficier à l'ensemble des travailleurs, pas tant sur les attendus de nouvelles libertés publiques octroyées par un nouveau pouvoir, mais plutôt sur la force morale que leur procurerait un renversement de la dictature. Dès le départ, toute la Serbie était paralysée, les ouvriers dans la plupart des entreprises publiques avaient cessé le travail, les étudiants et les lycéens s'étaient joints à eux. C'est surtout dans les petites villes que le mouvement était perceptible, bien plus qu'à Belgrade, où seuls certains quartiers étaient bloqués, c'est surtout donc dans les petites villes, comme la ville ouvrière de Kakak, où il y avait un petit groupe anarcho-syndicaliste très actif et qui était totalement aux mains des révoltés. Alors, de plus en plus d'entreprises rejoignaient le mouvement. La Serbie était proche d'un arrêt total de son activité. Belgrade fut bloqué pendant plusieurs heures par des barricades et autres barrages faits de bus et de tramways. Dans certains quartiers, la police se mit à frapper les manifestants. Toutefois, les forces de police, qui avaient été jusque-là un des piliers les plus fidèles du régime, étaient aussi gagnées par le malaise. Certaines unités refusèrent de suivre l'ordre de réprimer les grévistes. Ailleurs, plus de 7000 mineurs du charbon en grève depuis 3 jours firent face à plus de 2000 policiers anti-émeutes au cours de violents affrontements. La grève continua de plus belle, la population de la ville voisine étant venue apporter son soutien aux mineurs. Les compagnons de Belgrade ont surtout été actifs dans la composante universitaire du mouvement, participant et organisant la grève à la faculté de philosophie. Ceci leur a d'ailleurs valu des heurts avec les petits leaders en devenir d'Otpor, l'organisation étudiante de l'opposition, qui cherchait à empêcher l'expression de ceux qui, comme nos compagnons, proposaient des formes d'action autres que les traditionnelles sit-in. Ainsi, nos compagnons apportèrent leur soutien et leurs conseils aux étudiants actifs et autonomes qui organisaient les manifestations et les ont mis en contact avec les syndicats dépendants avec lesquels ils entretenaient de bonnes relations. Parallèlement, la grève se répandait comme une tache d'huile, des comités de quartier s'occupant de l'organisation du blocage au niveau local. Alors l'État durcit une nouvelle fois le ton en nommant un recteur à la faculté de philosophie, un professeur bien connu de ses positions fascistes, un ancien conseiller personnel de Karadzic, le leader ultranationaliste bosno-serbe. La faculté de philosophie est alors l'épicentre de toutes les manifestations contre l'autorité et l'État. Les étudiants ont donc décidé qu'ils bloqueraient l'université afin d'empêcher le recteur d'y pénétrer. Alors les compagnons ont été le fer de lance de ce mouvement. Et le lendemain, les professeurs se sont réunis en assemblée générale et ont décidé de les soutenir. Et ce quatrième jour de grève fut fatal pour Milosevic, Dès le matin, on pouvait sentir dans l'air comme qu'un événement exceptionnel se préparait. Et il devenait évident que les gens en avaient assez de Milosevic et de son régime. Les manifestants commencèrent à se réunir sur le square devant la faculté de philosophie. Bientôt, il devint impossible de dénombrer la foule tant ils étaient nombreux. Ils arrivaient de partout, de toutes les villes du pays. Plus de 2 millions de personnes étaient dans les rues de Belgrade ce jour-là. En début d'après-midi, la manifestation s'ébranla. Soudain, dans l'une des grandes artères du centre-ville, un bulldozer fit son apparition. Il est clair que quelque chose d'énorme allait avoir lieu. L'engin de chantier avait été apporté par les habitants de Kakak et c'est un compagnon, un anarcho-syndicaliste, qui est aux commandes. Arrivé devant le Parlement, les gens y sont entrés par la force à l'aide de l'engin et ont commencé à y mettre le feu. La police a alors tiré des grenades lacrymogènes, mais pour la première fois, les gens ont riposté. Alors que quelques policiers commençaient à frapper avec des manches de pioche les manifestants, ceux-ci ont contre-attaqué victorieusement. On a alors vu des policiers cesser de combattre et rejoindre la foule. Ensuite, les émeutiers se sont rendus à la maison de la radio-télévision. Les employés de la station de télé ont alors pris le contrôle des programmes. Pour la première fois depuis 10 ans, la télévision nationale parlait contre Milosevic. Et bientôt, tout bascula complètement. La célébration de la liberté retrouvée éclata partout. C'était une véritable liesse populaire. Les gens étaient dans la rue, s'embrassant les uns les autres. On pouvait voir sur les visages des sourires et des larmes de bonheur. De son côté, la commission électorale déclara que finalement, c'était le candidat de l'opposition qui avait gagné. La révolution, elle était d'ores et déjà confisquée. Au final, donc, le nationaliste Vojislav Kostunica est devenu le président des restes de la République fédérale de Yougoslavie. Les maîtres ont changé, une démocratie bourgeoise a été instituée, mais pour les classes populaires, rien n'a changé, si ce n'est que leurs conditions de vie et de travail n'ont cessé de se dégrader depuis. Alors à l'époque, 70% environ de l'économie était encore nationalisée, mais la période voit une accélération du processus de privatisation. Privatisation qui se traduisent par des licenciements massifs dans les entreprises qui ont déjà été privatisées d'ailleurs. De nombreux ouvriers licenciés se suicident, d'où le slogan de nos copains anarcho-syndicalistes serbes, les privatisations c'est le vol et le meurtre. Le taux de chômage officiel n'est alors que de 10% environ, mais ce chiffre est falsifié, et héritage de la dictature de Milosevic, de nombreux travailleurs n'ont pas été licenciés, mais mis en congé forcé, avec même pas de quoi vivre. Les conséquences de la nouvelle politique libérale, des travailleurs se sont vus proposer, en compensation d'une perte d'emploi, de monter leur entreprise. Ils ont ainsi bénéficié d'une petite somme d'argent, somme qu'ils doivent rembourser quelques années plus tard, alors que peu sont ceux qui ont réussi à monter une affaire un tant soit peu viable. Le travail au noir et l'économie parallèle sont donc très présents dans l'économie serbe. Une simple balade sur le marché de Belgrade suffit pour s'en convaincre, avec tous ces gens qui tentent de vivre en vendant tout et rien, quelques bricoles, des tablettes de chocolat, quelques cacahuètes, voire des objets personnels. Et encore, il faut avoir à l'esprit que Belgrade jouit d'une situation exceptionnelle. Pour éviter un soulèvement, les travailleurs de la capitale reçoivent tous leurs salaires de façon régulière. Un miracle par rapport à ce que vivent les autres travailleurs yougoslaves. En effet, si la classe ouvrière yougoslave devait donner un nom à l'enfer, elle le nommerait certainement Bor, la ville de Bor, non loin des frontières roumaines et bulgares de la Yougoslavie, est une ville industrielle et minière. C'est une ville où on travaille et où l'on crève. Un restaurant et un cinéma, seule distraction offerte à la population, si ce n'est l'alcool. Une ville où le blanc n'existe pas, tout y est gris ou noir, des fumées des usines et de la poussière du charbon. C'est d'ailleurs le taux d'enfumage des appartements qui détermine le prix d'un loyer. Et l'unique garantie contre une trop forte pollution, c'est un salarié qui est chargé d'observer la fumée des usines et de prévenir si elle est trop noire. Alors bien sûr, cette pollution ne fait pas que noircir le paysage, elle s'incruste aussi et surtout dans les poumons des habitants, enfants y compris. Un compagnon d'ailleurs qui était allé ensuite était malade pendant une semaine. Alors là-bas, l'espérance de vie est de 48 ans, une enfance dans la crasse des cheminées d'usine, de la poussière de charbon, une vie si je puis dire, à se faire exploiter dans la mine, quoi. Le capitalisme occidental, lui, a trouvé une autre utilisation au complexe industriel et minier de bord. Il y exporte ses déchets radioactifs qui sont stockés dans des puits, dans des puits de mine. Alors ceci, bien sûr, en toute illégalité. Mais qu'importe, les directeurs du complexe se remplissent les poches, plusieurs millions de dinars, des sommes inimaginables pour le commun des Serbes. Comme dans les autres pays de la péninsule des Balkans, la minorité rome constitue généralement la fraction la plus pauvre du prolétariat. À Belgrade, comme dans les autres villes du pays, les Roms sont parqués dans de véritables bidonvilles, à la périphérie du centre-ville, vivant de petits travaux, de récupération, voire de mendicité. Et la politique des autorités est alors de permettre aux Roms de vivre de leur activité traditionnelle, ce qui clairement signifie les faire vivre de la récupération des vieux papiers et autres détritus. Alors, les discriminations racistes à l'encontre des Roms sont fréquentes, avec par exemple l'interdiction d'entrer dans de nombreux magasins. Et autre exemple de discrimination aussi, les Roms considérés comme alliés des Serbes par les nationalistes albanais ont dû fuir le Kosovo. Or, si les Serbes réfugiés du Kosovo ont bénéficié d'une toute petite aide de la part de l'Église orthodoxe, les Roms, par contre, eux, n'ont eu le droit à rien. Alors si partout dans le monde les liens entre le capital et la mafia sont des plus naturels, dans la période dite de transition que traverse la Yougoslavie, transition entre le capitalisme d'État titiste et le capitalisme privé libéral, les mafieux et criminels qui se sont enrichis sous la dictature de Milosevic forment la base principale de la nouvelle bourgeoisie serbe. Ce n'est pas là-bas que le capitalisme se cache derrière une supposée légalité civilisée. La société bourgeoise se montre telle qu'elle est, sans le phare des réglementations commerciales. Alors les exemples sont nombreux, par exemple des entreprises qui ont été privatisées, où un certain nombre d'actions ont été remises aux travailleurs, et peu après, un homme d'affaires accompagné de quelques gros bras est venu convoquer les travailleurs, nouvellement petits actionnaires. Un prix généralement très bas est proposé, et si l'ouvrier refuse de vendre ses actions, l'argument est la batte de baseball des gorilles. Alors, de tels agissements sont de notoriété publique en Serbie. Les libéraux au pouvoir théorisent d'ailleurs l'insertion des mafieux dans l'économie légale, expliquant que dans tous les pays, c'est ainsi que se sont constitués les États et les bourgeoisies modernes. Au moins, on ne peut pas reprocher aux ultralibéraux serbes de tenter de masquer la brutalité de l'économie capitaliste sous un vernis idéologique. Alors, beaucoup plus réjouissant, les couches successives de la pseudo-autogestion titiste, puis de l'effondrement de l'État yougoslave font qu'ici ou là, des entreprises sont réellement aux mains des travailleurs. C'est ainsi que le plus grand hôtel de Kakak, par exemple, est géré par des employés eux-mêmes, employés qui déterminent la politique salariale, l'utilisation des bénéfices et élisent le gérant pour une durée d'1 an. Alors, bien entendu, cette autogestion vivant sous la tutelle de la dictature du parti ou de l'économie de marché, ce n'est pas le communisme libertaire, hein, loin de là. Mais elle n'en demeure pas moins une expérience intéressante, démontrant que les ouvriers n'ont besoin ni de patrons ni de l'État pour faire fonctionner leur outil de travail et en vivre. Dans plusieurs villes et usines de province aussi, des travailleurs, en dehors de toute idéologie, parti ou syndicat, forment ici ou là des comités ouvriers et luttent avec des méthodes souvent radicales, pour obtenir la satisfaction de leurs revendications, le plus souvent pour exiger le paiement de leur salaire. Alors une fois le régime de Milosevic déposé, alors que la plupart des anciens opposants baissaient les bras pour se ruer sur les nouvelles places de pouvoir ainsi libérées, les compagnons de Belgrade ont continué leur combat, car ce qu'ils visent, au même titre que les autres membres de l'Association internationale des travailleurs, qu'entre-temps ils rejoindront, c'est la libération pleine et entière de l'humanité. Ils ont donc continué à dénoncer la domination et l'exploitation, qui continuent à sévir sous les masques des nouveaux maîtres de la Serbie, ce qui leur a valu l'honneur de continuer à connaître la répression, les régimes changent, la police non. Donc l'initiative anarcho-syndicaliste naissante, l'AISI, qui est l'acronyme du nom en serbo-croate, rassemble des groupes dans différentes villes du pays, comme Belgrade, Novi Sad, Kakak, Sabak, etc. Une des activités principales est la propagande en direction des usines, C'est ainsi que les deux tiers à peu près des exemplaires de leur journal Directna Axia, Action Directe, et sont diffusés aux portes des entreprises. Ces diffusions ne se font pas toujours sans difficulté, les copains devant faire face aux responsables syndicaux réformistes et aux vigiles. Pourtant, malgré tout, leur presse a un impact sur les travailleurs. Ils ont par exemple d'excellents contacts avec les mineurs de bord. Aussi, afin de trouver un bouc émissaire aux difficultés du processus de privatisation, parce que de nombreuses entreprises vétustes n'intéressent pas les capitalistes, des politiciens ont dénoncé publiquement cette presse anarcho-syndicaliste qui ferait fuir les investisseurs étrangers. Alors si leur journal traite essentiellement des problèmes et des luttes de la classe ouvrière, les compagnons veulent en faire un véritable mensuel. On y trouve donc des articles sur l'histoire du mouvement ouvrier et libertaire, histoire complètement passée sous silence sous Tito, tant sous Tito d'ailleurs que sous l'actuel pouvoir ultralibéral, bien sûr. Régulièrement, des articles traitent du féminisme, ce qui est complètement nouveau en fait en Serbie. Il arrive d'ailleurs aux copains de prendre des positions qui, dans le contexte actuel de la Serbie, peuvent être impopulaires. Ce fut notamment le cas lorsqu'ils ont apporté leur soutien à la Gay Pride de Belgrade, le 30 juin 2001, alors que l'homophobie reste très implantée dans le pays. Alors si les gays et lesbiennes et leur soutien étaient environ 300, les homophobes en face, par contre, étaient le double à crier « Serbie, Serbie, mort au PD ». Et au moment même où un pope de l'église orthodoxe serbe a pris la parole pour expliquer qu'il voulait une Serbie divine sur la base des lois de Dieu, des dizaines de fascistes ont violemment chargé le cortège de la Gay Pride, tout ça sous l'œil passif et bienveillant de la police qui n'avait pas pour mission, dixit, de protéger des tapettes. Alors l'exemple de la Gay Pride de Belgrade démontre bien le rôle réactionnaire joué par l'église orthodoxe serbe. Omniprésente dans tout le paysage serbe, on peut trouver des icônes dans les salles de la mairie de Belgrade, par exemple, ou des crucifix dans les voitures de police de ce pays officiellement laïque. Plus grave encore, l'église orthodoxe serbe non seulement finance l'édition de publications fascistes ou néo-nazies, mais reste un des endroits où se propage la haine nationaliste et la propagande belliciste. Officiellement, la guerre en Yougoslavie, avec ses dizaines de milliers de victimes, de morts, de blessés, de femmes violées et de drames humains toujours présents, réfugiés, familles déchirées, amitiés brisées, histoires d'amour avortées, officiellement, tout ça est terminé, mais les foyers de tension, les haines nationalistes maintenues par les clergés de toutes les religions et les sources de conflits restent présentes. Et ce ne sont pas les stupides affiches de l'ONU vantant son œuvre, comme la création d'une police démocratique en Bosnie, qui changera quelque chose. Alors si dans les salons militants de Paris ou d'autres villes occidentales, certains révolutionnaires, voire des anarchistes, se félicitaient de la guerre antifasciste menée par l'OTAN contre Milosevic, ou encore exiger des armes pour la Bosnie, comme s'il n'y avait pas déjà eu assez d'armes dans cette région du monde, ou bien encore soutenir l'UCK, les compagnons serbes, eux, ont toujours été et restent sur des positions clairement internationalistes, que je qualifierais même d'anationalistes, et qu'ils ont continué de travailler en étroite collaboration avec les anarchistes de toute la région des Balkans. Alors, dès mai 2001, par exemple, ils ont organisé, avec le soutien de l'AIT et de la CNT-AIT, une rencontre à laquelle ont participé une centaine de militants venus de toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie. Cette rencontre anarchiste fut la première dans cette région après celle qui a eu lieu en 1990, avant que toutes les guerres des Balkans ne débutent. À part deux rencontres anarcho-punk, il n'y a pas eu de rencontre en chair et en os entre anarchistes d'ex-Yougoslavie depuis. Donc, d'une certaine façon, ce fut une rencontre historique. Elle a eu lieu au village écologique de Zelenkovac, en Bosnie. Il y avait là des gens de Slovénie, de Croatie, de Bosnie et d'Herzégovine, de Macédoine et de ce qu'il restait de la Yougoslavie, la Serbie et le Monténégro. C'était pour tous ces compagnons anarchistes non seulement un grand événement politique, mais aussi un grand moment d'émotion. Ils avaient les mêmes idées sur les problèmes, non seulement dans le monde, mais aussi dans les pays où ils vivent. La plupart d'entre eux sont dégoûtés par le nationalisme et le combattent autant qu'ils le peuvent. Et alors donc, lors de cette rencontre, plusieurs actions conjointes furent planifiées. Il y eut des discussions sur des projets de publication commune. L'aide mutuelle a été discutée et bien sûr approuvée. Et puis, le réseau n'a pas cessé de s'étendre depuis avec la Grèce, la Pologne, la Turquie, etc. Et comme je vous le disais, ils ont aussi rejoint depuis l'Association internationale des travailleurs. Alors, nos compagnons mènent aussi des campagnes anti-électorales dans ce pays où, en 2002, malgré trois tours d'élection, il n'y avait toujours pas de président élu, la population s'abstenant à plus de 50% à chaque fois. Alors, il serait bien sûr absurde d'affirmer que ces taux d'abstention record ne proviennent que des campagnes anarcho-syndicalistes. Simplement, les copains, en prenant l'abstention, sont en phase avec un sentiment général de rejet des politiciens par la population. Comment s'en étonner ? Non seulement les conditions de vie ne font que s'aggraver, mais en plus les politiciens apparaissent peut-être encore plus clairement qu'en France comme de sinistres escrocs. Prenons par exemple Kostunica, le nationaliste qui a succédé à Milosevic. En France, les médias et démocrates l'avaient encensé, transformé en champion de la démocratie contre la dictature. Eh bien, ce politicien s'est fait connaître en écrivant dans des bulletins néo-nazis financés et édités par l'Église orthodoxe serbe. Un de ses sujets favoris était de tenter de réhabiliter les collabos pro-fascistes serbes de l'occupation nazie de la Yougoslavie, expliquant qu'il n'était pas tant pro-nazi qu'anticommuniste. D'ailleurs, lors de son ascension au pouvoir, les groupes néo-nazis se sont sentis confortés et soutenus depuis le haut de l'État. Quant à l'adversaire politique principal de Kostunica, le premier ministre serbe Zoran Dindic, un ultralibéral, sa principale réalisation est d'avoir été celui qui, avec 750 000 dinars, a été le plus grand vainqueur yougoslave du jeu télévisé Qui veut gagner des millions en 2002. Alors cet argent ne fit pas longtemps son bonheur, il a été assassiné en mars 2003. Et d'ailleurs, l'état d'urgence fut décrété en Serbie. Un couvre-feu a été imposé à Belgrade, théâtre et cinéma sont fermés, les militaires qui ont désormais les mêmes pouvoirs que la police patrouillent dans les rues. Et alors qu'il est clair que pour tout le monde que l'assassinat a été commandité par les Bérets Rouges, cette ancienne unité de police spéciale, partie intégrante de la mafia, la première mesure prise est d'interdire les grèves et les manifestations. Les fractions de la classe dirigeante se flinguent entre elles et c'est la classe ouvrière que l'on muselle. Alors il apparaît clairement que ce n'est pas tant à l'encontre de telle ou telle clique mafieuse que se dirigera la répression, mais essentiellement contre les travailleurs. Alors bien sûr, depuis 10 ans, nos compagnons ont régulièrement fait l'objet de menaces et d'intimidations physiques, autant par les groupes paramilitaires nationalistes que par la police, qui bien souvent d'ailleurs sont les mêmes. Ils ont été arrêtés, interrogés, détenus. Il faut dire que certaines vieilles habitudes ont la vie dure. Mais depuis deux ans, la répression se fait de plus en plus pressante, plus incisive, plus brutale. Il faut dire que c'est la période depuis laquelle le gouvernement a lancé une politique frontale contre le monde du travail pour aligner la Serbie sur les critères de l'Union européenne. Plutôt que de s'en prendre aux profiteurs de guerre, ce sont aux simples travailleurs, considérés comme des variables d'ajustement, qu'on demande de faire une fois de plus tous les sacrifices à coup de licenciements massifs et d'enfoncement dans la misère. Sans surprise, les syndicats classiques disent aux travailleurs de se résigner et d'accepter leur sort au nom de la soi-disant rationalité de l'économie. Il s'agirait de mesures nécessaires pour que l'économie aille mieux. Pourtant, lors du traditionnel 1er mai en 2008, des travailleurs de Belgrade ont commencé à dire qu'ils ne marchaient plus et ils ont chassé de la manifestation le ministre du Travail et des Privatisations, pendant que les chefs syndicaux exhortaient les manifestants à ne pas suivre le mauvais exemple des anarcho-syndicalistes. Alors que la situation avec la crise devient plus dure, les scènes de désespoir se durcissent aussi. Ainsi, certains travailleurs se sont coupés les doigts avant de les manger pour protester contre leur licenciement. Mais tous ne sombrent pas dans l'autodestruction. Dans ces conditions, face à la trahison évidente des syndicats et partis politiques, l'anarcho-syndicalisme représente une alternative crédible et radicale, dans le sens où il s'attaque aux racines des problèmes que sont l'État et le capitalisme. Le quotidien serbe d'Anas ne s'y trompe d'ailleurs pas, qui a titré récemment que la Serbie devenait un terrain fertile pour le développement de l'anarcho-syndicalisme. Et c'est dans ce contexte que le 25 août dernier, un graffiti, un acerclé plus précisément, a été peint sur le mur de l'ambassade de Grèce à Belgrade. Deux bouteilles incendiaires ont été également lancées sur ce bâtiment sans qu'elles ne fonctionnent, fêlant tout au plus une fenêtre. Et ce qui tient lieu de justice en Serbie a immédiatement décrété qu'il s'agissait là d'un acte terroriste. Et vu qu'il s'agissait d'une représentation diplomatique, l'épithète internationale a été rajoutée pour faire bonne mesure. Et comme il fallait trouver rapidement des coupables, nos amis, qui se revendiquent révolutionnaires et affirment au grand jour sans se masquer leurs convictions anarchistes, ont fait l'affaire. Donc ainsi, depuis le 4 septembre dernier, bien que rejetant tout lien avec cette action, dont la méthode leur est étrangère, et avec le groupe qui l'aurait revendiqué, cinq de nos compagnons sont retenus otages par la police et la justice de l'État serbe, Tadej, Ivan, Sanja, Ratibor et Nicolas, et un sixième, qui s'appelle également Ivan, sera lui aussi arrêté quelques jours plus tard. Alors tous les six sont gardés au secret, toute communication avec l'extérieur leur est interdite, et aucune information n'est donnée sur leur état présent jusqu'à ce jour, et ni sur ce qui va leur advenir. Ils risquent aujourd'hui jusqu'à 15 ans de prison pour un acte qui n'a rien détruit, qui n'a blessé personne, si ce n'est l'amour propre de l'ambassadeur de Grèce, et que de plus ils n'ont pas commis. Alors ne serait-ce la peine de prison que risquent nos compagnons, cette histoire serait proprement ridicule. Surtout si on compare avec l'histoire récente des Balkans, on sait là-bas ce qu'est le terrorisme international. Il y a sévi, malheureusement, il y a à peine une dizaine d'années. Nous pensons que c'est plutôt pour essayer d'enrayer ce mouvement d'auto-organisation et de libération des travailleurs que le pouvoir serbe a mis au cachot nos compagnons, plutôt que pour lutter contre un soi-disant terrorisme international. Sinon, comment expliquer que parmi les milliers de militants nationalistes qui ont assailli et détruit par incendie l'ambassade des États-Unis de Belgrade en février 2008, incendie qui a fait un mort, un seul lampiste ait été arrêté et qu'il n'ait été inculpé que de simples troubles à l'ordre public. Ou encore que les militants nationalistes qui ont encore pu récemment, en toute impunité, assassiner en pleine rue un jeune supporter de foot toulousain au seul motif qu'il parle une langue étrangère, ne soient pas inquiétés par l'État. Ce gouvernement a clairement décidé de gouverner par la peur. Répression contre le mouvement anarcho-syndicaliste d'une part et complaisance discrète envers les groupes de terreur nationalistes d'autre part, tout en tenant officiellement un discours contre les extrémistes violents. Mais personne n'est dupe. Sous prétexte de la lutte contre l'extrémisme, ceux qui exercent le pouvoir augmentent une pression toujours plus forte sur la population et mettent en place les outils d'une répression brutale. Alors déjà en septembre 2008, les compagnons serbes écrivaient à propos de la répression « Comme par le passé, ces actions de ceux qui détruisent nos vies n'auront pour seul effet que de renforcer notre esprit et de fortifier notre conviction que nous sommes sur la bonne voie. Nous proclamons que nous n'allons pas cesser nos actions et que nous continuerons notre lutte pour la liberté contre l'exploitation, les privatisations et les licenciements avec encore plus d'énergie, de combativité et de sérieux. » Donc voilà, depuis leur arrestation début septembre, un certain nombre de rassemblements de solidarité, de manifestations de soutien, de concerts et de campagnes d'affichage se sont multipliés à travers le monde ces trois derniers mois, à Belgrade, à Bratislava, à Varsovie, Lisbonne, Prague, Vienne, Londres, Sydney, à Zagreb, Moscou, Kiev, Thessalonique, Athènes, Hambourg, Denver, Sofia, Berlin, Lyon, Skopje, Budapest, Madrid, Oslo, Berne, Saint-Pétersbourg, Ljubljana, Trieste, Paris, Ankara, Grenade, New York et ce soir à Toulouse. À Toulouse où justement dans les semaines qui viennent, le 3 décembre plus précisément, l'équipe des partisans de Belgrade rencontrera en match retour le Toulouse Football Club au Stadium. Alors les événements tragiques et criminels qui ont eu lieu en marge du match aller à Belgrade sont encore dans toutes les mémoires. Cette rencontre sportive sera sous les projecteurs des médias internationaux et attirera particulièrement l'attention des diplomaties serbes et françaises. Alors aussi, nous appelons, en dépit de l'atmosphère de terreur policière qui ne manquera pas de peser sur la ville ce jour-là, nous appelons les gens d'ici, de bonne volonté, qu'ils soient supporters ou pas d'ailleurs du TFC, à fraterniser avec les supporters serbes qui auront fait le déplacement, à fraterniser et à les informer sur la situation de leurs six compatriotes et de réclamer leur libération. Car en effet, l'histoire récente de la Serbie et l'activité infatigable de nos compagnons que je vous ai exposés nous le montrent. Fort heureusement, tous les Serbes ne sont pas intoxiqués aux mensonges nationalistes et à la propagande fasciste. Bien au contraire, à l'image de l'immense majorité de l'humanité, ils n'aspirent qu'à vivre libre et dignement là où ils sont, là où ils travaillent, là où ils rêvent, là où ils s'aiment, là où ils jouent au foot aussi. De plus, l'esprit d'octobre 2000 y est encore vivace. Voilà, et aussi... toute autre action sympathique qui manifesterait une solidarité active à l'égard des compagnons sont évidemment les bienvenus. Alors nous ne nous faisons aucune illusion, nous n'attendons de l'État serbe ni clémence ni pardon, pas plus que nous n'en appelons à la pitié. Nous ne l'attendons ni de l'État serbe ni d'aucun autre, car ce sont les gouvernements, les juges, les capitalistes, les policiers, les gardiens de prison qui nous maintiennent sous le joug du capital. Et pour celui qui veut s'en délivrer, ce sont arrestations, isolement, torture, emprisonnement qui l'attendent. La France et sa chasse obsessionnelle aux soi-disant anarcho-autonomes n'a, de ce point de vue, aucune leçon de démocratie à donner à la Serbie. Ainsi, si les mots de justice et de vérité ont encore un reste de sens pour les tenants du pouvoir serbe, alors ils doivent libérer nos compagnons immédiatement et s'arranger avec leur propre conscience personnelle. Voilà donc en France, comme en Serbie, comme partout ailleurs d'ailleurs, luttons pour la liberté, vive la solidarité internationale et liberté pour les six de Belgrade. Je vous remercie.